réussi quand même à imposer à votre fils, avec l'aide des deux grands, si je comprends bien aussi.
Hein, oui, qui ont été là pour... les deux grands frères, le papa, ouais, ancien, tout ça. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de faire attention, de les protéger, parce que ça devient trop grave ce qui se passe en ce moment.
Bien sûr, il y a des faits d'actualité qui font peur, qui effraient les parents. Il y a des choses horribles sur les réseaux sociaux, mais ne diabolisons pas non plus tous les réseaux sociaux. Pardon, il y a des choses formidables qui se passent sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement du harcèlement, c'est pas seulement du porno, c'est pas seulement des images de violence. Oui, mais j'ai l'impression que les parents, on leur fiche la trouille, et tout d'un coup, on diabolise. Alors le réseau social, le smartphone, l'écran en lui-même, on a bien compris que ce qui compte, c'est l'usage.
Et
le contrôle parental.
Je suis d'accord avec toi. Pour les adultes, peuvent aller chercher
même
sur
les jeunes,
pour
les
adultes. Même pour les adultes peuvent aller chercher sur les réseaux sociaux même des contenus intéressants, mais je vais te dire une chose, honnêtement, pour avoir regardé, tu me trouveras un truc intéressant sur TikTok. Tu me trouveras un truc éducatif ou intéressant sur TikTok. C'est la débilité absolue, TikTok. Je veux dire, ce réseau social n'a aucun intérêt.
Non, c'est
TikTok
pas vrai.
N'a aucun intérêt.
Il y a des artistes qui se produisent sur TikTok.
Non, Instagram. T'as Instagram qui fait à peu près la même chose que TikTok.
D'accord,
c'est fait avec des algorithmes qui sont faits pour aller plus de débilité.
Par exemple, il y a des gens qui font. C'est l'algorithme qui t'emmène.
Il y a des gens qui font des.
Tu as commencé par de la débilité.
Des recettes de cuisine.
Exactement, mais ça t'amène vers toujours plus de débilité.
Il y a des gens qui font des recettes de cuisine. Il y a des artistes qui se font découvrir grâce aux réseaux sociaux.
Que tu regardes,
tout dépend ce que tu regardes. Barbara, je te dis encore une fois.
Je te parle de TikTok.
L'algorithme, tu l'alimentes et après il t'alimente.
Bah oui.
C'est basé comme ça. Tu l'alimentes et après tu l'alimentes.
Ah, c'est pas vrai. Dis donc, tu m'en apprends des choses. J'étais pas au courant.
Mais sois pas comme ça.
Tu me parles comme si j'étais une débile.
Mais non, je te réponds. Je te réponds quand tu dis.
Non, tu me réponds pas. Tu m'expliques comme si j'avais rien compris.
Quand tu dis que sur TikTok, il y a que des trucs débiles, c'est parce qu'au départ, t'as regardé peut-être des trucs débiles.
Mais un gamin de. Mais c'est pas ça. Oh là là, mais c'est fatigant à la fin. Cette façon condescendante de parler.
Ça va.
Mais non, il te parle d'une façon.
Mais non, il parle pas à toi. C'est pas toi qui parle.
Il n'y a pas un problème d'âge Il n'y a pas un problème d'âge avec les réseaux sociaux. Le seul problème des réseaux sociaux, c'est celui-là. C'est précisément les algorithmes.
Ce que tu vas chercher.
Ça te piège parce que ça individualise le truc que ça t'enferme dans un cercle où tu ne peux pas sortir.
Mais c'est pourquoi
j'ai des copains viticulteurs, ils font du commerce.
C'est ce que j'essayais de répondre à Olivier. Je suis d'accord avec lui. Quelqu'un qui a des centres d'intérêt, je te dis n'importe quoi, un gamin de 13 ans qui est passionné par l'astrophysique. C'est passionnant les réseaux sociaux. Il va même pouvoir poster des photos de trucs qu'il filme, etc.
Avec d'autres
passionnant.
Gens
mais on va pas, on va essayer quand même de pas trop se mentir. Des gamins passionnés d'astrophysique et de Marcel Proust sur les réseaux sociaux sont moins nombreux, me semble-t-il, que les gamins que je vois dans les établissements scolaires
et qui vont avoir
tendance à regarder des choses qui sont un peu moins intelligentes et l'algorithme va leur servir des choses de moins en moins intelligentes. Donc vu que la majorité de nos gamins sont plutôt exposés à ça qu'à l'astrophysique, je dis simplement il vaut peut-être mieux contrôler parce que pour l'astrophysique ils sont moins nombreux.
Alors Nicolas va terminer la discussion. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Alors vous avez un enfant qui a quel âge?
Alors, j'ai un enfant qui a 12 ans et un enfant qui en a 3. Donc,
celui de 12 ans, comment vous faites? Vous surveillez ou vous aimeriez que la loi vienne et protège jusqu'à 15 ans?
Alors non, pas du tout, parce que la loi, pour moi, interdire n'est pas la solution. Interdire n'est pas la solution parce qu'on va interdire à un enfant de 12 ans de ne pas aller sur les réseaux sociaux et derrière un ado, il va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère surveiller, être là avec lui, avec qui tu discutes, qu'est-ce que tu fais? Ces choses-là plutôt que d'interdire et derrière un auto et faire des choses qu'on n'accepterait pas, parce que moi j'étais le premier plus jeune à mes parents m'interdisaient des choses et j'étais le premier à le faire, donc non, pour moi interdire n'est pas la solution.
Vous regardez l'historique par exemple, Nicolas?
Bien sûr, je regarde l'historique, je regarde avec qui il discute. Après, moi, il est sur Snapchat ou il est sur TikTok. Il n'y a pas de Facebook ou de Twitter ou toutes ces choses-là. Moi, c'est Snapchat ou TikTok, pardon.
Et donc, vous lisez ses conversations, par exemple?
Mais bien sûr. Mais en fait, j'ai même pas à lire parce qu'il me les montre. Il me les montre, tiens, je discute avec un tel ou un tel. Je sais avec qui il discute. Et s'il a des ajouts d'amis ou il a des personnes avec qui, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui joue aussi. Et donc, ils s'échangent leur Snap pour discuter, pour échanger. Et je sais avec qui aussi ils discutent. Mais le problème, c'est que on peut pas interdire. Pour moi, c'est mon opinion, c'est mon avis. Et comme je reviens sur TikTok, il y a des choses très intéressantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses notifs, pardon. Mais et comme on disait, la cuisine, il y a des policiers qui ont TikTok, il y a des pompiers, il y en a, il y a de
oui,
tout.
Oui, c'est juste qu'est-ce qu'on en fait, quoi, c'est oui. Tout. Ouais. C'est ce qu'on en fait.
Voilà, exactement, c'est ça. Et
mais vous êtes adulte, Nicolas. Bien sûr qu'en tant qu'adulte, on va regarder des choses entre guillemets intéressantes, encore heureux, sur TikTok.
Enfin, mais encore une fois, forcément,
non, quand je te dis intéressant. Adulte,
alors à 18 ans, t'es formidable. Tu deviens vertueux.
Mais pas intéressant.
Et alors avant 18 ans, t'es débile qui en a pour le dire.
Mais je t'ai pas dit ça, je te disais intéressant pour toi-même.
Il y a des mômes de 15-16 ans qui vont chercher des trucs intéressants. Oui. Il y a des adultes qui ont 40 ans qui regardent des débilités toute la journée sur TikTok.
Mais c'est
alors, est-ce qu'on doit dire à ces adultes aussi qu'il faut
mais
les interdire pour les contrôler ?
C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur l'astrophysique.
Non, Barbara, tu nous expliques en gros que les enfants, de toute manière, sont complètement débiles et qui sont
Protègent moins, Olivier.
Et que les adultes, forcément, eux, contrôlent.
Non, mais ils ont moins la capacité de discernement pour se protéger.
Pardon, mais les enfants, les ados...
Va voir une cour de récré de primaire et tu vas voir s'ils regardent que des choses intelligentes. Non, mais t'as raison. En fait, il faut arrêter le bashing. C'est vrai qu'une cour de récré de primaire, la cour de récré de CE2, CM1, c'est vrai qu'ils regardent que des choses très très intelligentes sur les réseaux sociaux.
Le problème,
le problème, c'est que normalement, ils n'ont pas en CE2, CM1 à avoir le portable dans la cour de récré.
Non, mais quand je te dis dans la cour, je te dis aux abords, ou quand ils sont au parc, quand ils sont
sur Barbara.
Ils ne regardent que des choses très intelligentes.
On est d'accord là-dessus.
Non, d'après Olivier, si.
Non, j'ai jamais dit. Je dis que ce bashing anti-écran, à mon avis, est totalement vain. Parce que l'écran fait partie de notre vie, fera de plus en plus partie de notre vie. Il faut effectivement fixer des règles, etc. Mais ne diaboliser. Alors, à ce point les réseaux sociaux,
on termine.
On a de toute façon un temps de retard énorme dans notre discussion parce qu'on parle des réseaux sociaux, mais la vraie problématique qui va se poser pour les gosses et notamment pour l'éducation, etc., c'est l'intelligence artificielle et l'usage de l'IA. Notamment dans les écoles, etc. Et l'accès à l'IA.
Je vais te dire, on n'arrive déjà pas à contrôler les GAFAM. Alors, quand les GAFAM vont mettre tout avec des deepfakes et compagnie, et les gamins qui déjà aujourd'hui font pas la différence entre une fake news et une information vérifiée, alors là, mais avec les IA, laisse tomber.
On a un temps de retard.
Alors, c'est ça, faut-il interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans? Oui ou non. Résultat final, c'est quand même un oui à 76%. Donc, vous aimeriez bien qu'en fait la loi vienne vous donner un coup de main dans cette histoire.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h30.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à demain.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1. Attention, bientôt,
la roue RMC revient. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC ?
Sur RMC ? Vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC.
9h30.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Frédéric Farah. On va parler avec vous, tiens, enseignants, c'est le moment de témoigner aussi au 32-16 avec nous du CAPES de mathématiques.
RMC, les Grandes Gueules.
Comme l'an dernier, le CAPES de maths qui permet d'enseigner au collège et au lycée essuie des rafales de critiques. Pourquoi ? Et alors là, c'est public, c'est sur les réseaux sociaux de la part d'enseignants qui montre les copies, qui les compare aux copies d'il y a 20, 30 ou 40 ans, en disant « mais c'est du niveau des élèves auxquels on va enseigner ». Alors, oui. Vrai ou pas ?
Il y a les témoignages notamment recueillis par le journal Le Point. Il y a par exemple Laura, qui est une ancienne professeure de mathématiques, qui a passé au crible la première épreuve écrite du CAPES 2024. Et elle dit « les premières questions, c'est du niveau ». collège. Et ensuite, elle regarde chaque question. Elle dit, bah là, c'est du lycée. Là, c'est niveau troisième, etc. C'est d'une facilité déconcertante. J'ai halluciné quand j'ai vu les sujets. En fait, il y a un abaissement de la valeur du diplôme, si j'ai bien compris, parce que la profession est devenue peu attractive. Visiblement, on cherche des profs de maths désespérément. Et quand on en a, enfin, des candidats, on donne quasiment le diplôme parce que comme ça on s'assure d'avoir des profs pour la rentrée prochaine. Cet abaissement de la valeur des diplômes, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inverser ou est-ce que ce sera difficile de revenir en arrière?
Barbara?
Il y a différentes choses. C'est vrai que le CAPES de maths, on est sur, en 2023, on est sur 793 candidats reçus pour 1040 postes à pourvoir. Donc vous voyez bien que forcément le niveau d'admission va baisser. Il était à 8 sur 20. Voilà. Je rappelle quand même que c'est encore pire pour les professeurs des écoles. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Parce que aujourd'hui, dans les académies les plus gourmandes en enseignants, c'est-à-dire Créteil, Versailles, on peut, par certaines années, être sur du 4 sur 20 de niveau d'admission. Donc, vous avez des élèves. C'est pour ça que, moi, le nombre de gens qui viennent me dire « l'instit de ma fille fait des fautes d'orthographe », bah oui, ou « l'instit de mon fils fait des erreurs dans les calculs au tableau et se sert de la calculette parce qu'il n'arrive même pas à calculer », bah oui, puisqu'on a fait baisser le niveau du diplôme, enfin du concours, parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, le vrai centre du problème, avec Frédéric, mais ça serait trop compliqué à vous expliquer pourquoi la réforme de la masterisation a été aussi un des facteurs qui a fait reculer le nombre de candidats, parce que vous avez des étudiants qui se sentaient pas d'aller jusqu'au bac plus 5, alors qu'avant il fallait un bac plus 3 et une grosse formation de terrain. Donc la formation pose problème, mais c'est surtout l'attractivité du métier. Quand on entend aujourd'hui ce qui se passe dans les écoles, il y a des gens qui nous ont accusés d'ailleurs de dire « oui, vous parlez trop mal de l'école, vous ne rendez pas le métier attractif ». Souvent, c'est ce que nous reproche l'institution. Oui, mais sauf qu'il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux parents, il ne faut pas mentir aux élèves, il ne faut pas non plus mentir aux futurs profs, de leur dire « venez vers le plus beau métier du monde ». C'est le plus beau métier du monde, et ça, je n'en disconviendrai jamais. C'est un métier absolument fabuleux, mais les conditions dans lesquelles on travaille, et je ne parle même pas du salaire, mais c'est au-delà même du salaire. Le salaire, c'est déjà pas terrible, mais les conditions, le mépris à la fois de la part de la société et de notre institution, ne nous étonnons donc pas que le niveau des concours soit entre guillemets, obligé de baisser pour recruter, et on n'arrive déjà même pas à recruter.
La question, c'est aujourd'hui quel est l'intérêt de devenir prof de maths? Je pose la question de façon
un peu brutale. C'est passionnant, prof de maths.
Je pose la question un peu
brutale.
C'est
passionnant, prof de maths.
Donc, Frédéric.
Alors, je vais répondre à ta question. Je regardais sur le site très intéressant du Café Pédagogique qui expliquait que, par exemple, pour les concours du primaire, dans certaines académies, le niveau d'admissibilité est à 6 ou 7 sur 20, et dans d'autres, il est proche de 14-15. Bon.
Ouais. Donc, en 2014, il était à 4 sur 20 à Créteil. C'était 2014.
Aujourd'hui, c'est évident qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt, on peut faire ça pour tout, hein. Quel est l'intérêt d'être prof de maths, quel est l'intérêt
d'être prof de philo,
d'être prof de philo,
de
prof de SES.
C'est cheminot, on voit les intérêts.
Il n'y a pas d'intérêt.
C'est évident qu'aujourd'hui, cet intérêt se dissipe de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les conditions d'exercice de ce métier, Barbara l'a très bien dit, deviennent dramatiques. La politique, même du gouvernement, pour revaloriser le PAC, les primes, tout ça, ça ne marche pas. En plus, il y a une revalorisation début de carrière, milieu, fin, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. C'est-à-dire, la société regarde les professeurs toujours avec un angle critique. Ils foutent rien, ils sont toujours en grève.
J'ai l'impression que c'est moins vrai. C'est moins vrai.
Mais on l'entend. Ouais. On a les parents sur le dos qui sont absolument surprésents et étouffants par certains côtés. C'est vrai que ce métier a perdu complètement l'attractivité. Et comme aujourd'hui, évidemment, ce métier n'intéresse plus, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir de plus en plus des arrière-bandes d'amphi qui vont faire ce métier. Hein, parce que les gens ne voudront plus faire ça, parce que les conditions ne sont pas là. Et puis, tant que le gouvernement va continuer, que ce soit celui-là ou celui d'avant, de faire des réformes de caporalisation permanente, c'est-à-dire la réforme Blanquer a été pour moi le truc le plus dingue qu'on ait jamais vu. Ça a été mis en marche au forceps, pendant le Covid, sans aucune concertation.
Et au début, c'était en plus au détriment des maths. Il a fallu que non seulement les profs hurlent, mais que enfin les parents d'élèves se rendent compte que pour leurs gamins, c'était la catastrophe.
On supprimait les maths.
Mais combien de temps ça a pris? Il y a eu 2 ou 3 années de sacrifier. Il a fallu que les élèves eux-mêmes l'éprouvent et que les parents se disent mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Alors que ça faisait des mois et des mois que les profs alertés disaient mais comment on peut faire ça?
C'est pas depuis Blanquer.
Enlever les maths dès la seconde. C'était aberrant.
Que le métier de prof évade des
valorisants. question que tu te poses, c'est comment un ministre comme M. Blanquer, qui est un ministre sérieux, qui connaît la maison, comment il a pu se laisser convaincre par des rapports à la noix de gens qui sont des profs d'université, qui comprennent rien au terrain, qu'il fallait enlever les maths en seconde.
Non mais on est d'accord,
les maths,
Barbara,
c'est l'avenir.
Non mais d'accord,
si t'es une puissance, si tu veux être une grande puissance même... économique et que t'as pas des bons matheux, Cédric Villani vous l'expliquera, c'est la catastrophe.
D'accord, très bien, mais ça c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu conjoncturel, mais au sein même de la société, aujourd'hui le professeur n'a plus la place qu'il avait auparavant, comme le médecin d'ailleurs.
Ça, d'accord.
Tous les métiers à vocation sont dans cette situation.
Bah, voilà.
Les métiers d'utilité sociale et d'utilité publique sont dévalorisés. Donc,
aujourd'hui, mais ce qui est inquiétant... comment revaloriser pour qu'un jeune se dise, tiens, prof de maths, voilà, c'est un
mais alors, c'est terrible.
C'est un métier où je serais respecté, où je serais bien payé, où,
c'est,
où
je pourrais évoluer. Pardon, mais c'est terrible. Parce que le professeur, c'est lui qui transmet le savoir.
Oui.
C'est lui qui te prend, qui t'élève, qui détecte chez toi aussi si t'es un bon. À l'époque, ça nous faisait rigoler, la génération, c'est soi-disant, tu sais, t'avais le fort en maths. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Sauf que dans une société qui va être de plus en plus confrontée en plus à l'intelligence artificielle, qui va être de plus en plus confrontée aux besoins du numérique, on va avoir de plus en plus besoin justement d'avoir cet esprit logique et
tout
cet esprit. Moi, j'étais pas matheux. J'ai toujours buté moi sur les exercices de mathématiques, etc. Mais tu vas avoir de plus en plus besoin d'avoir des professeurs qui vont te prendre, qui vont t'initier, qui vont t'aider. Donc là,
Mais en plus, je vais te dire.
C'est inquiétant, ça.
C'est très inquiétant.
Ce qui est doublement inquiétant, c'est que pour ne pas justement être victime de la machine, pour ne pas demain devenir les esclaves de l'intelligence artificielle, il faudra être non seulement très bon en maths, mais il faudra être aussi faire de la philo, avoir une capacité à penser à ce que c'est l'éthique, à se positionner. Donc il va falloir former des gens qui vont avoir des bonnes capacités d'élaboration logique et des très bons niveaux de mathématiques pour précisément ne pas être les esclaves des machines. La France des robots de Bernanos, excusez-moi, c'est l'après-guerre,
la
il a écrit ça.
Aussi apprendre va permettre aussi un apprentissage.
Mais justement, si on ne veut pas se faire bouffer par les machines, et je trouve ça fou que nos gouvernants, et quel qu'ils soient, hein, droite, gauche, ça je m'en fous, c'est pas la question, ne prennent pas la mesure de la nécessité aujourd'hui de redonner ces lettres de noblesse à des disciplines comme les mathématiques, et je parle vraiment des mathématiques, c'est-à-dire de la logique de démonstration mathématique. Et c'est ça qui manque aussi dans les concours.
Mais on ne reviendra pas en arrière, et c'est la destruction. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire on a démantelé un système qui était quand même plutôt bon, et aujourd'hui on ne reviendra pas en arrière, et les grands perdants sont les générations présentes et futures. Voilà.
Bruno Poncet, t'étais bon en maths, Bruno?
Ouais, enfin, jusqu'à temps qu'on manquille de la géométrie, là ça commence à me saouler.
8 fois 7
56.
Ah, c'est nul. Et moi, c'est une nulle en maths absolue qui vous parle. Hein. Moi, j'ai fait un bac A2, j'ai eu 5 sur 20 au bac. Hein.
Moi, j'ai eu un parce
que je sais que c'est important les maths.
C'était le bac des filles.
Tout à fait.
Non, mais parce que
j'avais un garçon dans mes classes.
Les filles devaient être bonnes en français et les mecs.
Ça, c'est fini.
Vous avez raté le carnet notes de Bruno Poncet. Ouais. Tu as eu combien?
Alors moi, j'ai fait un bac 1. Parce que j'ai fait un bac B, mais après, j'étais viré, donc j'étais dans le privé. Et en fait, j'ai fait un bac 1. Et bac 1, c'était 5 en philo, 5 en français, les coef. Sauf que c'était 4 en maths. Et moi, en maths, j'étais une bille. En bille, parce que c'est les fonctions et j'écoutais plus. Moi, j'ai arrêté d'écouter en maths en 3e, ça me saoulait. Et en fait, j'ai eu 1 en maths. Donc et au rattrapage, je n'ai pas choisi maths alors que j'aurais pu rattraper parce que même avec 4, j'avais mon bac en fait. J'ai pas pris maths, j'ai pris philo et histoire géo parce que en maths, je savais que j'aurais peut-être même pas eu 2 en fait.
Tu sais qu'aujourd'hui, tu serais à la place de Jean-Pierre Farandou. Hein.
Non, je serais à la place de Bruno Le Maire parce qu'il s'est pas compté, on a bien vu ce qu'il faisait avec l'économie française.
Oui, exactement.
Mais moi j'ai raté ma mention très bien au bac à cause de mon 5 sur 20 en maths. Et pourtant en A2, c'était pas beaucoup de coef. J'ai raté à cause des maths et de l'EPS. Mais malgré ça, aujourd'hui, je le dis, même ma fille, je la pousse énormément sur les maths.
Ouais, les maths
elle est bonne dans tout, mais c'est les maths, je lui dis, faut carburer en maths.
Bah, surtout qu'on
et
a
son père, il la lâche pas sur les maths.
Mais oui.
Oui, et qu'on
a besoin de scientifiques.
Nous sommes avec Yann.
Et de femmes scientifiques.
Yann qui nous appelle du Gard. Bonjour Yann.
Bonjour les BGG, ça va?
Oui, ça va Yann, artisan boucher, fidèle des GG. Comment vous avez réagi alors en entendant que le CAPES était au niveau du lycée alors?
Ah ben très mal, mais de toute façon, ça fait plusieurs fois déjà que vous en parlez dans vos émissions. Mais c'est moi ce qui me met le plus en colère, c'est que bon là c'est le CAPES de maths, mais c'est tout qui est tiré vers le bas. Et comme dit Barbara, les maths c'est l'avenir pour tout. Quand on parle d'intelligence artificielle et tout ça, on va avoir besoin de développer ça. Mais avant, je pense qu'il faudrait déjà supprimer la connerie naturelle, quoi, parce que c'est
un vaste travail.
Chez qui?
Ah oui, mais
qui
là...
a trouvé le vaccin?
Ah ben ça, on ne sait pas ça. Ça, ils ont été vite. Par contre,
Yann, vous étiez bon en maths, vous ou pas?
pas mauvais, mais quand je suis sorti de troisième, comme je disais tout à l'heure à votre
Bruno,
à votre standardiste, oui, ouais. Quand je suis sorti de troisième, je connaissais mes tables de multiplication. Ouais, moi, maintenant, je prends un apprenti, mais c'est un carnaval, quoi. C'est un carnaval où il faut tout le temps une calculatrice à la main pour peser.
Oui, c'est vrai. Il faut dire que la calculette a remplacé le calcul mental.
Moi, j'ai été fou. Hein. J'ai mon plus jeune, mon plus grand, des, mon fils le plus âgé, à 28 ans. Donc, quand il était en CM1, CM2, ça remonte déjà à presque 20 ans maintenant. Il fallait déjà la calculatrice et tout ça, mais j'ai pris des colères, mais phénoménales à cause de ça. Ils savent plus rien faire, les gamins.
Mais vous savez, Yann, il n'y a pas de secret non plus. En 30 ans, le volume horaire d'enseignement des maths a fondu de 25%. Quand vous faites reculer les mathématiques pour faire d'autres disciplines qui, à mon sens, je suis désolée, de toute façon, le temps scolaire est mal organisé. Mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles privées ? Dans les écoles privées, les élèves peuvent faire jusqu'à 2 heures de maths de plus par semaine parce qu'ils disposent comme ils veulent de la DHG. Donc vous avez.
Expliquer ce que c'est que la DHG.
La dotation horaire globale. Dans certains collèges privés, par exemple, en sixième, ils ne vont pas faire sciences, par exemple. Et ils ne vont pas faire techno. Les heures de sciences et techno, elles sont converties en heures de maths. C'est-à-dire qu'ils vont faire 2 heures de maths en plus. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont commencer juste en cinquième un peu de sciences. Et la vraie SVT sciences physiques, ça va être quatrième, troisième. Alors que nous, dans le public, on est obligé de coller les heures de techno, de sciences nat, de sciences physiques. Le principal du collège, il ne peut pas prendre ces heures-là pour les donner aux profs de maths.
C'est la science nat.
Oui, mais c'est plus important. C'est plus important de renforcer les mathématiques. Moi, je peux te dire, je le dis honnêtement, ma fille a été dans le privé en partie au collège. Maintenant, elle est dans le public. Son niveau de mathématiques là en troisième, il est
donc on va créer un système
énorme
à deux vitesses.
Parce qu'elle était dans un collège. Elle était dans un collège privé où elle avait 2 heures de français de plus et 2 heures de maths de plus par semaine.
Yann était un peu affligé. Et reste avec nous pour écouter Mélissa qui nous appelle du Var et qui est étudiante en lettres. Bonjour Mélissa.
Bonjour les grandes gueules.
Vous vouliez réagir pourquoi Mélissa, dites-nous alors.
Parce que moi je suis étudiante en lettres et pas en maths, mais du coup je vois la même chose dans ma filière. C'est-à-dire que moi, j'ai repris mes études. J'ai passé mon bac en 2012 et donc j'ai fait des études en lettres bac plus 3 2012 jusqu'à 2014. Et j'ai repris mes études là, cette année.
Ouais.
Et j'ai vu le niveau. Mais alors, moi qui étais une étudiante moyenne plus, il y a 10 ans, là, je me retrouve avec 18 de moyenne avec des copains qui, en CAPES, master de lettres, ne font pas la différence entre un dialogue et un monologue. Donc c'est pas possible.
Et comment vous l'expliquez ça?
Je sais pas. Alors moi, apparemment, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu le bac pendant le Covid, donc un bac un petit peu donné aussi. Et une complaisance des enseignants, mais que je ne comprends pas.
Donc en fait, on abaisse la valeur des diplômes.
Complaisance des enseignants, c'est ce qu'elle dit, Mélissa, voilà.
Quand je vois des copains qui, sans vouloir être méchante, mais qui font pas la différence pendant un oral entre un dialogue et un monologue, et que le prof lui met 11 à l'oral, ben moi, il y a 10 ans, et puis c'était pas il y a 40 ans, mais il y a 10 ans, en 2012, mon prof m'aurait mis 2, quoi. Et puis voilà. Mais là, je comprends pas. Il y a aussi la masterisation de Blanquer qui a baissé le niveau. Moi, je parlais avec de mes professeurs qui nous expliquaient que en bac plus 5, passer le concours, passer un mémoire, être stagiaire au collège, être même pas payé un SMIC, tout le monde a baissé les bras, les étudiants, les profs,
Donc, c'est normal.
Ouais. Mélissa, je vous remercie de ce témoignage. Vous voulez faire quoi dans la vie plus tard, Mélissa?
Moi, justement, je veux être prof de lettres.
Ah bah, c'est bien. Allez-y, parce qu'on a besoin de gens qui connaissent la différence entre un monologue et un dialogue. Ça va nous aider.
J'espère que le niveau sera un peu plus élevé, parce que si c'est juste ça, c'est juste.
Vous aurez 22 sur 20 au CAPES.
Mais elle a raison, Mélissa. Un master 2 aujourd'hui, ça vaut une licence dans les années 90.
Mais Mélissa, vous êtes c'est bien, 31 ans, vous avez la foi, gardez là, vous êtes encouragée par nos deux enseignants.
Complètement.
Barbara et Fred. Et si vous avez besoin de petits tuyaux, de cours supplémentaires, de cours du soir, Mélissa, Fred et Barbara, vous êtes
On est là.
Les GG toujours là pour vous, Mélissa.
Exactement. Même si Macron le veut pas.
Ils vous feront 10% sur les cours.
Oui, gratos, moi.
Gratos.
On gagne tellement de sous.
On a posé la question CAPES de maths. Merci Mélissa. CAPES de maths, trop facile, diplôme donné. Est-ce que les diplômes ont encore de la valeur? Non pour vous à 85%.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
Si un jour vous ne captez pas RMC,
pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à demain.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC Conso.
Charlotte Méritant est avec nous. Salut Charlotte.
Salut Rémi.
Tu nous parles musique aujourd'hui. Musique, son, bruit, qui influencent nos achats. On appelle ça le marketing sonore, une technique marketing donc utilisée par les commerçants et les marques pour nous pousser à la consommation. Ce qui explique, moi, parfois, ça m'est arrivé d'entrer dans des magasins de vêtements pour accompagner certaines personnes et avec le boum, 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 boum qui est insupportable. Moi, je ressors ça au bout de deux minutes.
C'en est un exemple. Et d'ailleurs, en fait, marketing sonore, ça peut paraître un petit peu nébuleux comme terme, mais vous connaissez tous la preuve. Inutile de vous donner le nom de cette marque pour que vous l'ayez reconnu SNCF, immédiatement. Évidemment, et c'est ça la puissance du marketing sonore, c'est quand en fait une identité auditive, une identité sonore est presque plus connue que la marque elle-même. D'ailleurs, un deuxième exemple. Vous le connaissez aussi, celui-là. C'est Netflix, évidemment. Pour l'anecdote, ce son, il est issu d'une scène de la série House of Cards, quand le personnage principal tape du poing sur la table. Ça fait un genre de... Vous voyez ? Il est issu de ça. Et donc, ça vous montre à quel point un son de quelques secondes à peine peut ancrer en nous le souvenir d'une marque. Et d'ailleurs, les neurosciences ont démontré le lien qu'il y avait entre musique et mémoire.
Et aussi un lien entre musique et émotion.
Oui, les sons ont un impact sur nos émotions et nos émotions ont elles-mêmes un impact sur nos impulsions d'achat. Une musique sympa dans un magasin va nous mettre de bonne humeur. Une identité sonore un peu zen va nous relaxer. Et bref, ça va nous faire rester plus longtemps dans le lieu et éventuellement augmenter la probabilité qu'on achète. D'ailleurs, l'enseigne Nature et Découverte l'a bien compris. Ah oui, si vous allez dans un de ces magasins, vous allez entendre...
Des gouttes d'eau,
des oiseaux.
Voilà. Et aussi des de l'eau qui coule, tout ça.
Exactement, absolument. Une petite fontaine comme ça. Oui. Exactement.
On peut se barrer, Rémi.
Il y a ça aussi à Disneyland, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les distributeurs de boissons. Il y a une fameuse marque de soda. Il y a le bruit de la canette qui s'ouvre.
Oui.
Qui s'échappe de la machine.
Ah, donc, tu as plus envie de faire pareil.
Ouais. Et d'ailleurs, pour 70% des Français, une ambiance sonore agréable améliore l'image qu'ils ont de l'enseigne. Donc, véritablement, ça fonctionne.
Bah, c'est ce qu'elle disait à l'instant. Il y a aussi des sons qui peuvent susciter la faim ou la soif.
Et l'exemple que je vais vous donner, c'est presque le même qu'Élise. En fait, c'est pour ça que si vous êtes déjà allé à Roland-Garros ou que vous l'avez regardé à la télé, vous avez peut-être entendu ceci. Exactement.
Ah oui. Mais ça fait longtemps ça en plus.
Diffusé par Perrier à chaque changement de
ça
côté.
Ça fait très longtemps, ouais.
Pour créer une association d'idées chez le spectateur. Tiens, est-ce que j'aurais pas un peu soif? Tiens, et si j'allais me chercher à boire?
La puissance du marketing sonore, c'est aussi quand on finit par mieux connaître un jingle pub, ça c'est vrai aussi, que la musique originale.
Celui-là par exemple. Vous l'avez reconnu?
Oui,
McDo.
McDo, évidemment, c'est un jingle assez entraînant, assez joyeux pour nous donner envie d'aller chercher un Big Mac, alors qu'à la base, c'était du Justin Timberlake.
Ouais.
J'ignorais totalement.
Et ouais.
Il a touché.
Et si je vous fais écouter cette chanson de Pauline Esther en 1989. Est-ce que vous l'associez pas à une pub?
Vas-y, non.
Alors, je vous fais écouter la pub. Aujourd'hui, on connaît presque mieux ce jingle de Groupama que la chanson.
Oasis par Carlos, donc.
Oui, aussi. Mais on connaît presque mieux cette chanson que la chanson de cette pauvre Pauline.
Mais bon, puisque c'est le but ultime, est-ce que ce marketing sonore sert vraiment à vendre plus?
Oui, la preuve, ceux qui ont pu se payer des voix célèbres comme le fameux.
Mythique. On fait bondir les ventes de l'enseigne de 20% en 2005, la première année de diffusion du jingle.
Bon, ce qui fait, enfin, moi, ça m'inquiète un peu parfois parce que c'est le marketing, mais il y a une sorte de manipulation quand même.
Bah oui, alors tu l'as dit, c'est un petit peu le jeu du marketing, effectivement. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est que ça existe. Il faut en avoir conscience et quand vous faites vos achats, il faut que vous ayez en tête toujours que tous vos sens sont mobilisés pour vous pousser à acheter, à consommer toujours plus.
Mais parce qu'ils font ça aussi avec les odeurs, vous savez.
Bien sûr, le marketing olfactif.
Ouais. Dans le métro, par exemple, quand tu sens parfois des odeurs de boulangerie.
Oui, enfin, dans le métro, on ne sent pas que ça.
Il y a certaines stations de métro où il y a des boulangeries, mais ils n'ont pas vraiment des fours dans la cuisine du métro. Ils te mettent des diffuseurs d'odeurs pour que tu aies envie d'un croissant.
Ouais, on ne prend pas les mêmes lignes.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Il est 4h30 sur RMC. Un très bon réveil à tous, votre premier journal en direct avec à la une fusillade en plein cœur d'un commissariat. Ça s'est passé hier soir à Paris. Un homme s'est emparé de l'arme d'un policier et a blessé deux agents. La politique et la guerre à Gaza qui s'invite au concours de l'Eurovision. Des manifestations hier pour dénoncer la présence d'une candidate israélienne au concours de chant. Et puis cette fois, Marseille n'a pas eu la flamme. L'OM éliminé hier en demi-finale de la Ligue Europa, battu 3-0 par l'Atalanta Bergame. Il était aux alentours de 22h hier soir au commissariat du 13e arrondissement de Paris. Un homme qui était en garde à vue est parvenu à s'emparer de l'arme de service d'un policier et a ouvert le feu. Il a blessé deux fonctionnaires. Pour l'un des deux, le pronostic vital est engagé. Les policiers ont riposté. Le tireur a lui aussi été blessé. L'homme venait d'être interpellé pour avoir blessé une femme à coups de cutter. Écoutez les précisions du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui s'est rendu sur place hier soir.
Aux alentours de 22h, donc nous avons eu un individu qui a agressé violemment une femme, ce qui a nécessité une intervention des policiers du commissariat du 13e arrondissement qui ont interpellé cet individu, puis l'ont ramené au commissariat du 13e pour une prise en charge. Et au moment de cette prise en charge, donc cet individu a subtilisé l'arme d'un fonctionnaire dont il a fait usage avant d'être neutralisé. Voilà, deux fonctionnaires de police ont été blessés gravement et on souhaite vraiment qu'il se rétablisse très vite.
Et on y revient tout au long de la matinale, on y reviendra dès le journal de 5h. La politique, on est à un peu moins d'un mois désormais des élections européennes. Le scrutin, ce sera le 9 juin et les candidats ont profité de ces jours fériés pour faire campagne. Hier, une grande partie du gouvernement était appelée à venir à la rescousse de la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Ayé, qui est distancée dans les sondages. Les ministres appelés à occuper le terrain. Gabriel Attal était lui en Bretagne. Il estime que c'est un référendum pour ou contre l'Europe. Et puis, il y a aussi des candidats plus discrets comme le président de la Fédération des chasseurs, Willy Schran, qui mène la liste Alliance Rurale et pour qui l'Europe, c'est surtout trop de normes et trop de bureaucratie.
Ça commence à bien faire. Comment on peut vivre aujourd'hui avec plus de 400 000 normes dans nos vies? On est emmerdé à peu près sur tout. C'est sur ce qu'on mange, c'est dans la voiture dans laquelle on roule, c'est sur nos passions, nos traditions, nos identités culturelles. Qu'est-ce que c'est que cette Europe aujourd'hui qui décide d'imposer? Mais écoutez, il y a des vrais problèmes, il y a des problèmes militaires, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Qu'on se concentre là-dessus, qu'on revienne effectivement aux fondamentaux et qu'on retire toute une bureaucratie aujourd'hui qui n'est là que pour poser des problèmes aux gens dans leur vie tous les jours. Et c'est toujours à côté de la plaque, c'est toujours hors sol.
À l'étranger, l'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza malgré les avertissements américains. Joe Biden qui a menacé hier de suspendre son aide militaire en cas d'offensive sur Rafah. Un conflit qui s'invite à l'Eurovision. La finale du concours de chansons a lieu demain et la présence d'une candidate israélienne fait débat. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans les rues de Malmö en Suède où se déroule le concours, appelant au boycott de cette chanteuse israélienne, ce qui ne l'a pas empêché Caroline Philippe de se qualifier pour la finale hier soir.
Israël. À l'annonce de sa qualification, Eden Golan exulte. La chanteuse a pu interpréter son titre sans être chahutée, mais plus tôt dans la journée, 12 000 personnes manifestaient dans les rues de Malmö pour dénoncer sa présence, comme ces deux manifestantes pro-palestiniennes.
J'exprime mon soutien à la Palestine et j'espère que les pays et les dirigeants de ces pays réagiront d'une manière ou d'une autre.
on aimerait qu'Israël soit disqualifié, comme la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine. L'Eurovision a toujours été politique et elle le sera toujours. Dans un autre quartier de la ville, les soutiens de la chanteuse se sont aussi réunis pour la défendre.
C'est une chanson géniale et je suis très heureuse qu'Israël puisse participer. L'Eurovision est une chose formidable et la politique n'est pas censée être impliquée. C'est juste de la musique.
Pour assurer la sécurité de l'événement, des renforts policiers sont venus de toute la Suède, mais aussi des pays voisins, du Danemark et de la Norvège.
La finale, c'est demain soir et sur scène, aucun signe distinctif, aucun drapeau, ni aucun message politique ne sera autorisé. Le foot et Marseille n'aura pas eu la flamme. Hier soir, à Bergame, l'OM est éliminé en demi-finale de Ligue Europa, corrigé 3-0 par l'Atalanta Bergame, avec un dernier but dans les toutes dernières secondes du match, et après une prestation plus que décevante. Florent Germain.
Oui, le constat est simple et unanime. L'OM n'a absolument pas été au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Marseille a montré ses limites techniques, physiques, parfois tactiques. Un OM dépassé, reconnaît l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
C'est vraiment la déception parce que dans une demi-finale de Coupe d'Europe, je pensais sincèrement qu'on montrerait plus d'allant, de combativité, d'agressivité.
Le gardien Paulo Lopez a fini la soirée dépité, mais au moins très lucide.
On est triste, on est déçu. Ils ont joué mieux que nous, ils ont voulu plus que nous. Je pense qu'on ne mérite pas d'aller en finale.
D'ailleurs, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia peinait à positiver après la rencontre.
On est extrêmement déçus, hein. on va pas se mentir. Après, on a fait un bon parcours, on a affronté pas mal de bonnes équipes dans cette compétition. Et on avait à cœur de rendre fier un club, une ville. Et ce soir, on a pas su le faire, malheureusement.
L'OM va vite devoir oublier cette désillusion. Jean-Louis Gasset a demandé l'union sacrée pour aller chercher en championnat une hypothétique qualification européenne.
L'Atalanta Bergame, donc qualifié pour la finale, qui affrontera le Bayer Leverkusen en finale de la Ligue Europa. Ce sera le 22 mai à Dublin. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Il est 4h36. Dans 20 minutes, c'est le top départ de Charles Matin. Et on vous attend. On attend vos messages sur l'application RMC, vous allez dans l'onglet Direct Studio. On vous attend au 32-16, le standard déjà ouvert. Vous pouvez nous appeler. Tiens, venez nous dire ce que vous faites de ce long pont de l'Ascension, ou si vous travaillez aujourd'hui. Si vous êtes supporter de l'OM, on peut débriefer ce match et cette déception hier soir. Et puis, on va jeter un œil ce matin dans nos caddies. On nous dit que l'inflation ralentit. Ça, ce sont les chiffres très officiels. C'est la moyenne de l'INSEE. Effectivement, ça augmente moins vite qu'avant. Mais est-ce que vous le remarquez dans les rayons et sur quels produits? Est-ce qu'il y a vraiment des produits en baisse? Est-ce qu'il continue d'y avoir par ailleurs des hausses qui vous choquent? On va essayer de faire la liste avec vous ce matin. Alors on a repéré les produits sucrés notamment. Ça, ce sont des chiffres de l'UFC Que Choisir, notamment les chiffres des grandes marques, avec parfois des hausses spectaculaires en un mois seulement. En un mois, la bouteille de Coca par exemple a pris 2%, plus 3% pour les biscuits, les petits écoliers par exemple, plus 1,5% pour le Nutella. Est-ce que ça vous conduit à vous priver de certains petits plaisirs, du chocolat, des sucreries, des boissons? Est-ce que vous arrivez encore à vous payer les grandes marques, ou est-ce que vous avez renoncé? Il y a aussi les produits d'entretien, les cosmétiques, les shampoings qui augmentent beaucoup. Et puis à côté de ça, il y a des prix qui baissent. Les coquillettes, par exemple, ont perdu 5% en un mois. Est-ce que vous l'avez ressenti dans les rayons? On en parle tous ensemble au 32-16. On attend vos témoignages. On se retrouve dans une vingtaine de minutes avec Estelle Gass, avec toute l'équipe de Charles Matin. On vous attend au standard au 32-16. Et d'ici là, vous êtes avec Rémi Barré et toute la bande d'Estelle Midi.
RMC Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables, l'actu qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui avec Alfred Orange. On commence par l'exclusion du jour.
Oui, prononcée par Mathilde Panot, présidente des députés de la France Insoumise à l'Assemblée, qui demande l'exclusion d'Israël pour l'Eurovision qui se tient ce week-end. Avec d'autres députés européens, elle appelle les organisateurs de ce concours de chansons à se passer de l'État hébreu. Au nom de la paix et de l'amour de la culture, écrit la députée, appelons à exclure Israël, ne laissons pas la Palestine disparaître.
Bon, déjà, l'amour de la culture en parlant de l'Eurovision, ça se discute. Ouais. Malgré tout, Fred, comment tu réagis à cette demande, cet appel prononcé par Mathilde Panot?
Quand j'ai vu cette information ce matin, je n'ai jamais voté à l'Eurovision.
aujourd'hui il y a la demi-finale, et ben aujourd'hui je vais voter pour Israël en demi-finale. J'ai jamais voté pour qu'Israël ait en finale parce que ces gens-là commencent à m'énerver, qu'ils veulent tout interdire. Au nom de quoi la représentante d'Israël qui a une chanson sur le massacre du 7 octobre, en hommage au massacre du 7 octobre.
Hein. Dont elle a dû changer les paroles.
Hein. Dont, exactement. Dont elle a,
on lui a demandé de changer les paroles.
De retoquer les paroles. Cannes, qui est l'entité audiovisuelle publique israélienne, a accepté de retoucher un peu les paroles, etc., pour que ça entre exactement dans les critères de l'Eurovision. Quoi. Donc, non, c'est un message éminemment antisémite de la part de Mathilde Panot. Non, elle ne veut pas qu'une juive chante à l'Eurovision, c'est ça. Donc, et vraiment, je n'ai jamais voté à l'Eurovision. Et ce soir, je vais voter pour Israël, pour que Israël, parce qu'aujourd'hui, c'est
une demi-finale. Il y a une demi-finale et la finale.
Pour que Israël soit qualifié pour la finale.
Soit qualifié pour la finale. Rien que pour emmerder ces gens-là.
Mais et surtout, est-ce que Mathilde Panot, après les attentats du Bataclan, quand la France est allée littéralement raser la Syrie, elle a demandé à ce que la France soit exclue de l'Eurovision.
La France est allée raser la Syrie.
Ils y sont allés en équipe.
Déjà, ce qui se passe en ce moment, et je ne prends pas position, ce qui se passe en ce moment à Gaza, ce qui se passait avec l'État islamique, le groupe État islamique en Syrie, la France qui a contribué à la coalition anti-groupe islamique, on ne peut pas comparer.
Alors, est-ce que quand les États-Unis ont fait la guerre à l'Irak, on a demandé à les exclure des Jeux Olympiques?
Ça, c'est une question. Mais on...
Voilà. Donc Mathilde Panot, quand ça l'arrange, en fait, on interdit tout. Pourquoi elle ne demande pas l'interdiction de la Chine au JO là? Parce que c'est marrant, il y a un génocide ouïghour qui a été reconnu par l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, moi, les déclarations de Mathilde Panot et ses demandes, ça commence à bien faire là, en fait. Et je suis complètement d'accord avec Fred. Le 7 octobre, Mathilde Panot, c'est quand même une meuf qui a dit que les attaques du 7 octobre du Hamas, c'était de la résistance armée. Donc, tout ce qu'elle dit après ça, si vous voulez, pour moi, sur ce sujet, c'est pas crédible.
Alors, je souscris à tout ce que vous avez dit. La seule petite chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Eurovision, c'est de la géopolitique. Mmh. En 2022, l'Ukraine a gagné, la Russie a été exclue. Il y a une charte dans l'Eurovision qui dit qu'on ne doit pas, par exemple, avoir de paroles politiques dans les chansons, etc., etc. Cette charte, elle est théorique parce qu'en fait, c'est la diplomatie, c'est de la géopolitique et c'est très important.
Mais un attentat terroriste, c'est pas une parole politique.
Je souscris à tout ce que tu dis. Je dis simplement, il faut intégrer le fait que même si c'est un simple concours de chansons, la politique et donc la géopolitique s'en mêlent. Et d'ailleurs, la représentante israélienne a dit qu'elle porterait une robe qui rappellera les attentats du 7 octobre. Donc on ne sait pas exactement comment elle va être habillée, mais il y aura. Donc il y a des messages. Ce qui est dommage, c'est que justement, ne pas laisser ce concours pour ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un concours de chansons pour censer justement faire que la chanson apporte la paix partout et l'utiliser en termes de propagande politique. Il est là le problème.
Oui.
Il faut expliquer pourquoi Israël, qui n'est pas un pays européen, mais un pays du Proche-Orient, participe non seulement au niveau musical, mais dans toutes les compétitions sportives, à l'Europe. Tout simplement parce que ses voisins ne veulent pas les accepter dans par exemple pour les qualifications pour les matchs de l'Israël participe aux qualifications pour l'Euro ou pour le Mondial dans la zone Europe. Pourquoi? Parce que je devrais être dans la zone Asie. Mais simplement les pays arabes autour refusent de jouer contre Israël. Donc c'est la raison pour laquelle Israël se retrouve toujours dans la zone Euro alors que c'est un pays asiatique, un pays du Proche-Orient.
L'épidémie du jour.
Oui, l'épidémie de choléra a fait un premier mort en France. Un enfant de 3 ans est mort hier à Mayotte. Cette maladie bactérienne qui déshydrate complètement le corps sévit de nouveau. Elle arrive des îles voisines des Comores, transmise par l'eau. Elle inquiète les autorités françaises. 58 cas ont été détectés et 4000 cas contacts ont été vaccinés pour prévenir tout retour de cette maladie qui avait tant décimé par le passé.
C'est une décision qui a été prise par la France, faire de Mayotte un département français.
Aujourd'hui, c'est pas la France. Aujourd'hui, ce sont les Maoris qui ont voté pour être un département français.
Mais la France, on est d'accord. Mais la France l'a accepté. La France a organisé ce référendum.
Ils ont choisi d'être français, les Maoris.
On est d'accord. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est ce que je voulais dire, Fred. Aujourd'hui, Mayotte et la République française a pris la décision d'intégrer Mayotte en tant que département. Aujourd'hui, est-ce qu'il se passe ce qu'il se passe à Mayotte est-il la honte de la République?
C'est la honte de la République. Ce matin, quand j'ai vu cette information, je me suis dit le choléra est de retour sur le territoire de mon pays.
Absolument.
Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et il y a un vrai problème avec les Comores. De toute façon, voilà, et les propres Maorais demandent l'arrêt et le contrôle de l'immigration d'avion folle qui arrive des Comores. Parce que le problème, c'est que le foyer de choléra, il vient des Comores et il a été amené par l'immigration. Donc,
oui, ce n'est pas qu'un problème d'importation. Il y a aussi un état sanitaire de Mayotte qui est absolument indécent. Et là où je te rejoins, c'est que là où c'est la honte de la République, c'est que le réseau, par exemple, d'eau, aujourd'hui, il y a une partie des gens de Mayotte qui n'ont pas d'eau potable. Enfin, faut bien se rendre compte que c'est un département français, qu'on n'y a pas mis les moyens, on a laissé une incurie pendant des années se développer là-bas, et résultat, aujourd'hui, les gens de Mayotte, les habitants de Mayotte n'ont pas de l'eau potable. De l'eau potable.
C'est insupportable.
On se rend compte de ce dont on parle.
De rappeler que les Maoris avaient choisi deux référendums d'être français. C'est qu'on leur doit ça en plus.
Et non seulement. Et la France a pris la responsabilité d'intégrer Mayotte en tant que département. Il faut qu'elle assume notre responsabilité.
L'archipel des Comores était des colonies françaises. Il y a eu une décolonisation. Et les Maoris ont dit nous voulons être français. Et vous êtes français.
Mais le problème du gouvernement aussi, c'est qu'il ne considère que la métropole. Par exemple, pour moi, ça concerne toutes les dom-tom et tous les départements qui ne sont pas en métropole. Tu sais, il y a une phrase qu'on dit en Guadeloupe, ne tombe pas malade en Guadeloupe. Parce qu'ils avaient un CHU qui n'avait pas été rénové depuis 15 ans, suite à un incendie à la maternité. Je suis désolée, vu que c'est des peuples, des populations, des régions en fait, qui sont très peu peuplées, en général, le gouvernement, ils se disent, c'est pas grave, c'est comme s'il y avait eu un problème, justement, à Angers, tu vois, imaginons. Donc, pour eux, ça reste minime. Enfin,
il y a eu aussi, par le passé, de la corruption où des élus locaux s'en sont mis plein les
poches. Aussi, bien sûr.
Voilà, donc, c'est une époque révolue, il y a eu des époques où il y a eu de gros soucis sur l'argent que la France mettait et qui n'arrivait pas tout à fait à ceux qui devaient en bénéficier.
Parce qu'il y a un
laxisme. Avec un certain Jacques Lafleur.
Je n'osais pas donner le nom.
Le grand ami de Chirac.
Mais parce que laxisme et absence.
Mais c'est la France. C'est la France. Et aujourd'hui, on meurt du choléra.
À partir du moment où tu acceptes tes enfants, il faut savoir.
On est bien d'accord. La star du jour. Alfred.
Oui, c'est Taylor Swift, la chanteuse américaine, qui donne le premier de ses 4 concerts à Paris ce soir. 180 000 spectateurs attendus à la Défense Arena sur l'ensemble des 4 soirs, avec des spectateurs venus du monde entier, puisque certains ont même fait le voyage depuis les États-Unis, figurez-vous. Paris va battre tout le week-end au rythme des shows de la star américaine, et les commerçants parisiens se frottent déjà les mains et parlent déjà du concert de la décennie, rien que ça.
J'ai entendu un reportage sur ce sujet il y a quelques jours. Depuis 2 jours déjà, il y a des fans qui campent devant la salle de concert, la Défense Arena, pour participer à l'euphorie générale, pour être dans l'ambiance. 180 000 spectateurs en 4 concerts, c'est ça, hein?
Ouais, c'est 4 fois.
Il faut savoir même que, effectivement, j'ai entendu le témoignage d'une fan venue des États-Unis parce qu'elle n'a pas pu avoir de place pour les concerts.
Il y a plus 40% de touristes américains à Paris en ce moment, bien sûr, à cause des concerts.
Ça s'entend, hein, on l'entend. C'est un phénomène. Peut-être qu'on mesure mal de notre côté ici, parce que je suis vieux,
sais
rien. Mais on ne se rend pas compte que c'est une histoire de dingue. Taylor Swift, c'est celle la plus riche aujourd'hui, elle est milliardaire. Enfin, c'est celle qui vend le
plus.
A fait plus d'un milliard de bénéfices.
Et c'est du jamais vu. Est-ce que tu comprends, Élise, cet engouement pour cette star?
Bah ouais, moi je comprends, je la trouve très sympathique, sa musique elle est ultra mainstream, donc en fait c'est accessible à tous.
Mais non mais c'est ça, parce que c'est pas Madonna des années 80.
Exactement,
mais
c'est de la pop accessible à tous, et je pense que dans le public il y aura autant des petites filles de 8 ans que des femmes de 70 ans. Moi j'ai plein de copines qui y vont, je voulais trop y aller mais j'ai pas trouvé de place, et les places sont très chères en plus. Ouais. Elle arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'en plus, non seulement elle fait plein de dates, mais en plus...
jusqu'à 1000 dollars aux États-Unis.
Une place pourrie, c'est 200 euros. Une place à visibilité réduite, ça s'appelle, donc tu vois pas très bien la scène.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
Ça veut dire, t'es limite derrière la régie, quoi. Ouais. Et non, mais c'est ouf, mais moi, je l'adore.
C'est incroyable. En plus, y a des économistes qui ont expliqué le poids économique que représentait, outre le poids politique, dont on n'a pas parlé.
Le poids politique est
fou. Je plaisante à moitié en disant ça, mais elle fait trembler Donald Trump. Hein.
Elle peut décider de l'avenir du
pays. Parce qu'on le sait qu'elle est très, très hostile à Donald Trump.
Et elle avait invité ses fans à s'inscrire sur les listes électorales, et on avait remarqué effectivement une augmentation d'inscription des jeunes sur les listes électorales. Donc il y a ça, il y a le poids économique. Le fait que ce soit une femme qui arrive, ça, je trouve que c'est plutôt réconfortant dans le monde de.
Déjà déjà
on vit aujourd'hui.
Ouais, tu te souviens.
Oui, oui, non, mais
les concerts de Madonna, c'était des, déjà il y a.
Et encore récemment, il y en a eu un.
Le Girl Power. C'est bien pour le Girl Power, je trouve ça plutôt pas mal.
Oui, alors moi, je ne suis pas dans le Girl Power. Après, moi, ce n'est pas la musique que j'écoute. Je vois que ça ramène des sous à mon pays, aux commerçants, etc. Après, ce sont des gens, ils sont très forts, quoi.
C'est
un spectacle. Moi, je vais jamais. Moi, je n'irai même pas. Il y a trop de 40 000 personnes, c'est trop de monde pour moi. Mais pourquoi pas? Après, c'est une vraie chanteuse, une vraie musicienne qui vient de la musique country. Oui. C'est-à-dire que c'est pas certaines chanteuses qui ont besoin de
d'autotune,
tout ça pour chanter. Si vous voyez ce que
ou
je veux dire.
Qui se mettent à la country pour plaire à sa.
Voilà, voilà. Ouais. Ouais, c'est une vraie chanteuse au départ.
Et ce qui est génial, juste Alfred. Un dernier mot, c'est que elle est venue en 2011 en concert à Paris dans un Zénith à moitié vide.
Wow. Voilà.
15 ans plus tard, presque 15 ans plus tard, elle fait 180 000 personnes, alors qu'il y a 15 ans, elle remplissait même pas une salle de 5 000 places.
Qui est quand même une cible très.
Ça me donne des frissons.
Eh bien, on lui en souhaite autant. Vincent Cerussi nous rejoint.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Vincent, un jour,
c'est notre
peut-être.
Star.
Mais oui, Vincent, peut-être un jour à la Défense Arena.
Exactement. J'y suis allé. Hein. Oui, le jour non plus, Fred. Mais c'est gentil de faire ma promo.
Bon, Vincent, salut d'abord.
Salut.
Aujourd'hui, tu ne comprends pas pourquoi le rappeur Jules a apporté la flamme olympique.
Ben, je vous la ressors. Obligé, c'est pour toi, Fred. Et oui. Qui a porté la flamme?
C'est Jules.
C'est Jules. C'est Jules, Fred, on va dire. Oui, mais sur le scène, c'est Jules, quoi. Fait un petit effort, quand même. Bon, Jules, Aya Nakamura, on sait pas trop si c'est les JO ou les Energy Music Awards, mais en tout cas, il l'a fait. Non, Jules a porté la flamme. Moi, je trouve ça assez cohérent. C'est un peu le rappeur paralympique de la langue française, finalement. Après, c'était Marseille. Donc, c'était Jules ou Didier Raoult, hein, quelque part. Il aurait allumé la flamme avec de la chloroquine. Ça aurait été un peu chelou. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu déçu, quand même, parce que bon, moi, je m'attendais à voir Zidane. Et finalement, bah, on t'amène Jules, t'attends Zidane, on t'amène Jules. C'est un peu comme si t'allumes la télé, t'attends Estelle Denis, on t'amène Rémi Barré. Enfin, voilà. Je préfère.
Mais toi, à titre personnel, Vincent, est-ce que le fait que Jules ait été choisi, ça te ravit ou pas?
Bah, certains critiquent le fait que Jules ait été choisi. Moi, non. Le vrai problème pour moi, c'est qu'il ait chanté après, à titre personnel. Ce qui est marrant, c'est qu'il a dit merci la zone, quoi, devant Macron et Brigitte. Zone, pas très, très zone, quoi. Voilà. Mais bon, Macron a adoré Jules. Hein. Ouais. Il a dit ça change de Maurice Chevalier. Alors certains critiquent, mais en vrai, vous auriez préféré qui, quoi? Mireille Mathieu, Dave, je veux dire, pour le coup.
Dave, ouais.
Enfin, ils n'auraient pas dit merci la zone, ils auraient dit merci les pas de Fred. Hein. Après, je ne vais pas critiquer Jules devant Elise Goldfarb.
Merci.
Voilà, fan numéro 1 de Jules. Et écoutez ce qu'elle a répondu à Fred. Hein.
Jules lance une date de concert. Combien de personnes sur liste d'attente? 1 million. T'arrives à mobiliser 1 million de personnes, toi, pour tes concerts? Je ne crois pas, Fred.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Casser, Fred, casser. Et en même temps, Elise a raison, parce que c'est vrai que quand on entend Fred chanter.
Tu es le printemps, moi l'automne. Mon cœur se bat. Attends.
Yes, allez, c'était cadeau. Bon, yes. Bon, il va pas faire le Stade de France, du coup, Fred, je te le confirme. Non, pour Elise, il n'y a pas de différence entre Jules et Rimbaud.
Il a écrit des chansons, moi, qui me touchent en plein cœur. Dans tes yeux, c'est magique.
Dans tes yeux. Vous
dans
connaissez
tes
Dans
yeux.
Tes yeux.
Une super chanson.
Une ode à l'amour.
C'est fini, je l'ai plus dans tes yeux. C'est fini, je l'ai plus dans tes yeux. Et même quand je t'en veux.
Voilà, c'est magique, hein, vraiment.
C'est magique.
Je pense qu'on peut le dire, on touche le sublime, hein, voilà, avec Jules. Après, Élise est légitime à parler des JO.
Moi, je relais mais la flamme. Je suis porteuse de flamme.
On s'en bat les couilles,
Ça n'importe quoi là, en
régie, ça pète un câble. Hein.
Bon, dans l'émission, on s'est aussi demandé Vincent s'il fallait accorder un jour de congé pour la mort de son animal de compagnie.
Mais carrément, mais je vais m'acheter 10 chiens. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances. Et puis au moins, voilà, avec le congé animal, tu pourras arrêter de faire mourir ta grand-mère dès que t'as besoin d'une excuse pour aller au boulot. Il y a que du positif. Ta collègue Séverine qui te gonfle tous les jours, elle est célibataire, propriétaire de 8 chats, un congé par chat, ça fait une semaine sans l'avoir. Moi, je trouve ça très bien.
Bon, mais est-ce que tu comprends qu'on puisse prendre un jour de congé pour un chien ou pour un chat?
Alors, faites attention, Rémi.
Il
n'y a pas que les chiens et les chats. Je dis ça parce que sinon, vous allez énerver Thierry Moreau.
Pourquoi ma poule aurait moins d'importance que le chat de Pierre Rondeau?
C'est une vraie question.
Oui, c'est une vraie question.
Je me demande si on n'aurait pas dû faire ça comme débat aujourd'hui.
Respectez la poule de Thierry, s'il vous plaît. C'est vrai qu'en vrai, il y a d'autres animaux de compagnie, mais ça devient compliqué. Si tes animaux de compagnie, c'est des poissons rouges, je veux dire, bon, t'es en deuil une fois par semaine, ils meurent tout le temps. C'est une galère, quoi. Non, mais les animaux sont nos amis. Je voudrais finir là-dessus. Sont nos amis et parfois plus, d'ailleurs.
Mon ex me disait toujours, est-ce qu'un jour tu m'aimeras autant que ton chat? La réponse était non, parce que je l'aimais plus que tout.
Voilà, voilà. Au moins maintenant, on sait comment draguer Élise. Hein. Vous la regardez, vous faites miaou, miaou. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Merci Vincent, merci beaucoup.
Bravo.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Éric Dimeco, l'ancien footballeur.
Voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. Du lundi au vendredi, 18h-20h, sur RMC.
Jérôme Roten enflamme la planète foot.
C'est Roten sans flamme. Emmanuel Petit.
Pascal Olmeta.
Éric Dimeco.
Jean-Michel Larquet.
Christophe Dugarry.
Steve Savidan. Denis Vérel.
Et Andy Delors. Deux heures de talk autour du ballon rond avec la plus belle des Dream Team.
RMC, Roten sans flamme, 18h-20h.
Bonjour, c'est Mathieu Rouault.
RMC, la matinale week-end.
On se retrouve tous les samedis, tous les dimanches sur RMC pour la matinale week-end. L'info, le sport, toutes les demi-heures, nos invités au plus près de l'actu, mais aussi la météo, la conso, l'IMO, mieux manger avec Perico. On vous attend au 32-16 entre 6h30 et 9h30. Le réflexe info, c'est la matinale week-end RMC. Alors à demain.
La matinale week-end sur RMC avec VVF. VVF, des vacances sport et nature et de belles rencontres pour partager bien plus que des vacances. VVF, des vacances en famille.
Vous écoutez RMC.
RMC, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Tout à l'heure, de 9h à midi, venez prendre votre dose de débat et de discussion avec les grandes gueules. Qui sera là ? Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, Zora Bitant, cadre de la fonction publique, et le professeur d'économie, Frédéric Farah.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
RMC, c'est une radio où tout le monde peut échanger. On écoute tout le monde, en fait. Voilà. Ça me permet vraiment sincèrement d'évoluer. Et RMC, il n'y a que RMC qui propose ça.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, demain, 19h-20h30.
RMC Football. Ce soir à 21h, l'OGC Nice accueille le Havre pour la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette rencontre face au Havrais, les coéquipiers de Dante vous donnent rendez-vous à l'Allianz Riviera. Place à partir de 9€ sur billetterie.ogcnice.com. Venez faire le plein d'émotions avec OGC Nice Le Havre avec RMC.
France 2. Le retour du plus grand show musical au monde, l'Eurovision. Cette année, Slimane portera les couleurs de la France lors de la grande finale de l'Eurovision avec sa chanson « Mon amour ». Demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. 7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Good morning. Good morning. Good morning.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Sébastien Krebs.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez tous les bienvenus sur RMC. Il est 4h57, c'est vendredi et c'est parti pour Charles Matin avec toute l'équipe, avec Estelle Gas. Salut Estelle.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Ça va, c'est la dernière de la semaine, le dernier réveil.
Et oui.
Devant le foot hier, devant l'OM ou pas ?
Et bien évidemment, fini pour l'Olympique de Marseille. Fini. Je pense à nos auditeurs. Donc c'était l'Olympique de Marseille en Ligue Europa, éliminé aux portes de la finale.
Oui. Ça va, Marseille, ils ont été gâtés, ils ont eu la flamme pendant deux jours.
Bon, c'est
bah là, le réveil est un petit peu plus difficile pour les Marseillais ce matin. Tiens, si vous êtes à Marseille, si vous avez suivi ce match l'OM, demi-finale, et ce 3-0 un peu rude, mais en même temps, est-ce qu'il y avait vraiment le niveau sur le terrain?
L'Atalanta était une très bonne équipe.
Venez nous le dire au 32-16. Et puis on va aller faire les courses aujourd'hui, puisque ça n'est plus férié. On va jeter un œil dans notre caddie pour parler prix et pour parler inflation.
Oui, surtout l'inflation alimentaire depuis ces derniers mois, elle ralentit selon l'INSEE, mais ça continue pourtant d'augmenter sur certains produits, notamment les produits sucrés, selon une étude de l'UFC Que Choisir.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les chiffres, les moyennes très officielles. On nous dit qu'effectivement l'inflation ralentit, de fait les prix augmentent beaucoup moins vite, c'est-à-dire que l'inflation ralentit, les prix se stabilisent mais à un niveau assez élevé. Puis alors il y a quand même certains produits où il y a des hausses parfois spectaculaires. On parle notamment des produits sucrés, des boissons, la bouteille de Coca plus 2% en un mois seulement, plus 2%, plus 3% pour certains biscuits, pour les pots de Nutella par exemple. Alors est-ce que c'est quoi les conséquences pour vous? Est-ce que vous privez de certains petits plaisirs? Est-ce qu'on arrête d'acheter du chocolat, des biscuits et des boissons? Est-ce que surtout vous arrivez encore à vous payer les grandes marques, ou est-ce que vous avez renoncé? On va en parler tous ensemble ce matin. Venez nous dire ce que vous observez dans les rayons, ce qui augmente moins, les choses qui baissent aussi. Il y a des choses qui baissent, les pâtes par exemple. On vous donnera un peu les chiffres tout à l'heure. Vous êtes avec nous au 32-16 et on lit tous vos messages sur l'application RMC. Et puis alors, l'autre info ce matin, c'est que la roue RMC est de retour. Vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros dès que vous entendez cette alerte. On ne peut pas la rater. On ne peut pas rater la trompette. Vous aurez 5 minutes pour vous inscrire dès que vous entendez cette alerte en envoyant le mot roue par SMS au 732-16. Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez faire tourner la roue RMC. Ça peut tomber à n'importe quel